Bonjour tout le monde, il est 13h, ici Marc-André Carignan et bienvenue à cette émission mensuelle pour Un Québec apprenant, une série qui est réalisée par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes. Et à chaque émission, nous abordons différentes thématiques liées à l'éducation aux adultes un peu partout en province. Alors avec cette émission, on tente de démocratiser, de prendre le pouls directement sur le terrain, que ce soit avec des formateurs ou encore des adultes qui sont eux-mêmes en formation. Et nous tentons également de vous présenter différentes ressources disponibles, soit pour vous, si vous êtes intéressé peut-être à retourner sur les bancs d'école, ou pour quelqu'un encore de votre entourage. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'accès à cette éducation aux adultes et des politiques gouvernementales, des politiques qui ont été mises en place ces dernières années ou qui pourraient être mises en place éventuellement, surtout avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, le gouvernement de Pauline Marois, un gouvernement péquiste. Alors aujourd'hui au menu, nous allons recevoir en fin d'émission trois groupes liés à l'éducation aux adultes qui travaillent directement sur le terrain et qui vont nous présenter leurs attentes précises face au gouvernement Marois. Alors, nous allons recevoir un représentant du mouvement québécois des adultes en formation, un autre de la Centrale des syndicats du Québec, alias la CSQ, et une représentante aussi de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre. Également, au cours de l'émission, nous aurons une sociologue, une professeure associée au département des relations industrielles de l'Université Laval, Mme Colette Bernier. Elle est spécialisée en formation continue des adultes qui ont déjà un emploi, parce que lorsqu'on parle de formation aux adultes, il y a plusieurs volets. Il y a le volet pré-emploi, mais également le volet, une fois qu'on a l'emploi, on peut continuer à être formé sur le terrain et c'est sa spécialisation. Elle viendra donc nous parler des différentes politiques qui ont été mises en place ces dernières années pour encourager les entreprises à former leurs employés. Et dans un instant, nous allons parler du plan d'action attendu par l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes. On verra ce que le Parti québécois nous a promis lors de la dernière campagne électorale. Alors sur ce, bonne émission. Avec l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, avec une nouvelle vision orchestrée par Pauline Marois, c'est le moment de repositionner certains dossiers, notamment ceux liés à l'éducation aux adultes. Et il y a beaucoup d'attentes de différents réseaux. Et on va en discuter à l'instant avec Daniel Barry, il est chargé de projet à l'analyse des politiques en éducation aux adultes à l'Institut de coopération pour l'éducation aux adultes. Bonjour à vous, M. Barry.
Bon après-midi.
C'est une bonne chose pour vous, l'arrivée d'un nouveau gouvernement?
Il y a un consensus assez large en éducation des adultes sur les choses qui sont essentielles. La plupart des partis partagent ce consensus-là. Donc, c'est pas nécessairement au niveau des propositions qu'on voit une différence, c'est au niveau du leadership qui sera exercé et de la volonté d'un gouvernement de prendre acte des défis en éducation des adultes et de porter une priorité en éducation des adultes et pas en parler de manière épisodique. Donc, à l'analyse des plateformes, on n'a pas vu qu'un parti se démarquait. Mais maintenant qu'il y a un gouvernement, il faut s'attarder à ce que ce gouvernement-là a proposé. Et il y avait très peu de propositions du Parti québécois, mais dont une qui est majeure, qui voulait créer un chantier sur l'alphabétisation. La première émission du mois dernier a porté sur ce thème-là. Il y a quand même une bonne proportion de la population, une personne sur cinq, qui a des sérieux problèmes à comprendre l'écrit. Donc, que ce gouvernement-là, ce nouveau gouvernement-là, veuille se pencher sur cette question-là, c'est majeur. Donc, il faut souhaiter que le leadership suivra et que ce chantier-là sera mené à terme.
Et là, qui chapeaute ce dossier-là?
Ah, ça, c'est une bonne question. Avec la réorganisation des ministères, on ne sait plus trop qui est responsable de l'éducation des adultes. En séparant éducation...
Oui, parce qu'on a séparé. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on a séparé le ministère en deux parties, là.
Oui, et on cherche qui va porter ce ballon-là de manière générale. On sait que Mme Malavoie sera responsable des centres d'éducation des adultes, donc des questions d'alphabétisation. M. Duchesne, enseignement supérieur, aura les cégeps. Donc, d'une certaine manière, formation professionnelle et formation technique semblent être séparées. Ce qui fait pas sens. Ces deux institutions-là doivent travailler ensemble pour créer un continuum de qualifications professionnelles. Les autres questions, francisation, formation des immigrants, culture, etc., vont probablement rester dans leur ministère. Mais sur l'essentiel, l'enseignement universitaire, et ça devient critique parce qu'il y aura un sommet sur l'enseignement universitaire prochainement. Est-ce que la question de l'éducation des adultes, des apprenants adultes à l'université sera traitée ou est-ce qu'on restera sur les enjeux de la formation initiale des jeunes à l'enseignement postsecondaire? Donc, présentement, c'est pas clair qui porte le ballon. Est-ce que c'est morcelé? Et si c'est morcelé, est-ce qu'il y aura un responsable de l'ensemble du champ qui pourra répondre des politiques du gouvernement peut être un interlocuteur avec le milieu.
Avez-vous été invité justement à ce sommet qui se tiendra là, dans à peine quelques semaines, quelques mois?
Je comprends que les invitations ne sont pas lancées, mais...
Il y en a qui ont déjà soumis leur plan d'action. Là,
si je m'appuie à la tournée de M. Duchesne, l'ICA n'est pas sur la liste, donc ce sera à nous de se faire inviter. D'accord. Mais vous aurez tout à l'heure Mme Jasmin du Mouvement québécois des adultes en formation. C'est un acteur étudiant qui inclut aussi les étudiants adultes au postsecondaire. Cet organisme-là, j'en suis convaincu, va faire des démarches pour être invité... pour rencontrer M. Duchesne dans sa phase préparatoire de consultation préparatoire et être formellement invité à l'événement.
Si vous aviez vous-même là, à inscrire une grande ligne en haut d'un plan d'action pour le gouvernement du Québec, ce serait quoi cette première grande ligne-là?
Il faut être capable de répondre aux besoins des individus, des accompagner dans leurs besoins de formation, que ce soit de l'alphabétisation, l'obtention d'un premier diplôme, l'accès aux études postsecondaires, la formation en entreprise. Les adultes ont des projets de formation diversifiés, ont des projets de formation qui sont liés à leur réalité, à ce qu'ils vivent. Et on a tendance à soutenir les réseaux qui offrent de la formation. C'est fondamental. Il faut maintenant faire un pas de plus et être capable d'avoir les outils financiers, entre autres, pour soutenir les projets de formation des adultes et essayer peut-être d'assouplir la bureaucratie et des multiples règles qui sont plus ou moins nécessaires pour permettre à des adultes de répondre à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste au niveau de notre diplôme. Là, pour gérer son impact sur l'environnement, il faut être de plus en plus spécialiste. Pour gérer sa santé, il faut être de plus en plus spécialiste. Pour gérer ses finances personnelles, ce qu'on appelle la littératie financière, il faut être capable de comprendre les produits financiers. L'éducation parentale et toutes ces réalités-là font partie maintenant de la vie des individus et dépassent ce qu'on apprend à l'école. Donc, il faut être capable de répondre.
Il dépasse le milieu du travail également, parce que là, vous parlez de la santé, ça, c'est de la vie de tous les jours, de la famille, les finances personnelles. On n'est plus juste sur le marché du travail, là.
Oui, et une radio comme CBL participe aussi à ce mouvement-là, comprendre les enjeux citoyens, être informé, avoir des points de vue alternatifs, et pas juste... Et l'éducation aux médias est un de ces champs-là. Donc, au-delà de soutenir ceux qui offrent la formation, il faut être capable de soutenir et de répondre aux besoins des gens et désaccompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon des politiques en éducation des adultes, des politiques d'expression de la demande et pas juste des politiques de gestion de l'offre.
Et est-ce qu'il nous manque, en fait, des ressources en éducation aux adultes au Québec où il y en a suffisamment sur le terrain?
Le Québec est riche de beaucoup de ressources depuis une cinquantaine d'années. Depuis les années 60, un réseau public s'est développé à tous les ordres en éducation des adultes. Il y a des organismes en alphabétisation populaire, en éducation populaire. Il y a toutes sortes d'organismes en éducation à l'environnement. On a beaucoup d'acteurs en éducation des adultes. Il faut les soutenir correctement, mais je crois que le gros défi à court terme, c'est de réussir à mobiliser tous ces gens-là pour leur permettre de répondre pas sous un mode concurrence, mais sous un mode collaboration aux besoins de formation des individus.
Parce que là, en ce moment, les organismes populaires, les ressources dans les commissions scolaires, tous les réseaux, finalement, travaillent de façon séparée?
J'irai pas jusqu'à ce point-là parce que depuis une quinzaine d'années, il y a beaucoup de partenariats, de collaborations. C'est une orientation assez large dans plusieurs milieux, incluant en éducation des adultes. Mais ça devient difficile de suivre la personne, l'apprenant elle-même, lui-même ou elle-même. On l'inscrit dans un centre, le centre gère son bout. On l'inscrit dans un centre d'éducation des adultes ou dans un groupe d'Alpha Pop, le groupe gère son petit bout. Mais personne n'a une vision d'ensemble des besoins et de la capacité qu'on peut avoir en collaboration, en complémentarité à aider cette personne-là. Les gens reçoivent chez eux un apprenant, répondent à son besoin de manière un peu saucissonnée, mais personne n'a le point de vue global sauf l'apprenant lui-même. Donc, il faut se donner des moyens institutionnels dans les réseaux de collaborer pour être capable de suivre la personne et de pas dédoubler les interventions, de pas nier ce qu'une personne a déjà appris en partant de ce qu'elle sait pour aller un peu plus loin. Ça reste un défi logistique, un défi politique de concevoir comment faire ça, et aussi un défi politique en termes de leadership, de rééquilibrer le système d'un système basé sur l'offre à un système basé sur la demande et les apprenants eux-mêmes.
Eh bien, M. Barry, je vous souhaite de trouver le bon intervenant au gouvernement entre les deux, deux responsables de l'éducation. Et un peu plus tard à l'émission, on parlera de demandes plus spécifiques de certains réseaux avec qui vous collaborez là, pour l'éducation aux adultes. Eh bien, Daniel Barry, chargé de projet à l'analyse des politiques en éducation des adultes à l'Institut de coopération d'éducation aux adultes. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Pour animer la culture à Montréal, CIBL 101.5.
Cette langue est très mélodique. C'est un peu triste, vous n'y comprenez rien. Vous n'êtes qu'un touriste, et toutes vos photos sont floues. Même celles où vous posiez debout, devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc, sans trop savoir comment annoncer aux informations. Deux ou trois mots à la radio et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place grouille de monde. Vous vous arrêtez une seconde. Nous ne sommes que des fourmis, et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Et du matin au soir, nous nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Sans savoir ce qu'il faut croire, c'est dans la machine, c'est dans votre tête. Parfois tout est si flou.
Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, mais non, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir.
Et du matin au soir, nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène. Ici, allume une lampe, tout contre votre temps. Le vrai, le faux. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. On ouvre les yeux, on les ferme. L'histoire a lieu dans nos pensées. On examine un souvenir et l'on peut se dire: l'as-tu vécu? L'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts? Avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu? L'as-tu rêvé?
jusqu'à 14h sur les ondes de CIBL, vous écoutez Pour un Québec apprenant avec Marc-André Carignan.
Eh bien, lorsqu'on parle de l'éducation aux adultes, il y a bien évidemment plusieurs volets à cette expression. Il y a le volet pré-emploi, donc la formation nécessaire pour obtenir éventuellement un emploi. Et il y a aussi le volet formation continue. Donc, une fois qu'on a obtenu un emploi, il y a toujours de la formation ou il y a souvent de la formation sur le terrain pour les adultes. Et ces dernières années, il y a différentes politiques, différents programmes qui ont été mis en place par nos gouvernements pour répondre aux besoins du moment. Et on va en discuter à l'instant avec Colette Bernier. Elle est sociologue et professeure associée au département des relations industrielles de l'Université Laval. Bonjour à vous, Mme Bernier.
Bonjour.
Alors, à quel moment dans l'histoire du Québec on s'est vraiment intéressé à la formation continue, qu'on a mis de véritables politiques en place sur le terrain?
Écoutez, ça date déjà de plusieurs années. Je vais pas revenir trop en arrière, mais disons que dans les années 80, c'est là où la formation a pris une plus grande importance puis qu'on a commencé à s'y intéresser plus. Il y a eu la commission Jean à ce moment-là sur la formation des adultes. Et pendant la crise économique, tout ça a été un peu délaissé. Et dans les années 90, là, on est vraiment revenu en grande pression sur la formation continue. Et c'est dans les années 90, par exemple, que toute la formation continue en emploi. Donc, pour les travailleurs en emploi, toutes les institutions qu'on a maintenant se sont mises en place.
Alors, et quel a été l'élément déclenchant? Pourquoi tout d'un coup on a décidé de s'intéresser à ce type de formation-là?
Ben, je pense qu'on se disait beaucoup hein, que de plus en plus, pour travailler, il faudrait une éducation plus élevée. Donc, c'est toute l'idée là, d'une économie du savoir qui s'en venait et que donc, il fallait à ce moment-là faire en sorte que les travailleurs soient de plus en plus formés. Donc, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour s'intéresser à tout ça. Alors, donc, dans les années 90, on a vraiment mis en place un certain nombre de politiques. Alors, on se souvient, par exemple, de la politique du 1% qui a fait beaucoup de bruit. Là,
c'est-à-dire?
Ben, c'était la politique qui visait à obliger les entreprises hein, à fournir 1% de leur masse salariale pour l'éducation de leurs travailleurs. Alors, naturellement, ça n'a pas été accepté au tout début. Il y a eu beaucoup de brouhaha vis-à-vis de ça. Mais par la suite, petit à petit, il y a eu en 97, bon, l'entente Canada-Québec où le Québec rapatriait tout ce qui était formation de la main-d'œuvre en emploi et ensuite de ça, divers organismes, comités sectoriels, conseils régionaux, commissions des partenaires du marché du travail qui sont mis en place. Donc, à ce moment-là, il y a eu une acceptation quand même parce que tous ces organismes-là, finalement, apportaient de l'eau au moulin et il y a eu une acceptation du fait que les entreprises se préoccupent de la formation de leur main-d'œuvre. En 2002, il y a eu la politique de formation continue, donc de façon large, qui a été plus ou moins appliquée là, dans les années par la suite parce qu'il y a eu des plans d'action qui n'ont pas été mis en place. Là.
Mais parlons-en justement parce que, bon, il y a eu beaucoup d'actions dans les années 90. Dans la dernière décennie, ça a été un peu plus difficile et là, vous le disiez, il y a des plans qui n'ont pas été mis en place. Pourquoi? Comment on justifie ça du côté gouvernemental?
C'était en 2009, je pense, qu'on prévoyait un deuxième plan d'action et je pense qu'il y avait des choses dans le premier plan d'action puis dans la loi qui avaient été remises en question. Il y a eu l'arrivée aussi d'un nouveau gouvernement où on se posait sans doute des questions sur le bien fondé d'aller dans cette direction-là. Probablement aussi que les choses étaient allées très vite dans les années 90. Il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place, en tout cas pour les travailleurs en emploi, ce qui est ma spécialité à moi. Et donc, probablement qu'on voulait mettre la pédale douce, pas aller trop vite.
Vous parliez 2009. 2009, ça nous ramène à la crise économique et j'imagine que le gouvernement, à ce moment-là, avait d'autres priorités, notamment de faire fonctionner l'économie, point. Donc, j'imagine que c'est peut-être aussi ce qu'on a dû faire des choix pour relancer l'économie du Québec et l'éducation aux adultes faisait peut-être pas partie de ces choix-là?
Ben effectivement, dans ces années-là, s'il avait fallu continuer avec une politique d'éducation aux adultes, mettre de l'avant des choses là qui donnaient des droits aux travailleurs en éducation des adultes, des congés d'éducation payés, des choses comme ça, probablement que ça aurait pas fait l'affaire de tout le monde. Effectivement, la crise a pu jouer dans ce sens-là.
Dans votre dernier livre, vous disiez, en fait, c'est un livre qui s'intitule « Formation et employabilité, regard critique sur l'évolution des politiques de formation de la main-d'œuvre au Québec ». Et vous dites dans un contexte néolibéral, parce que lorsque vous avez écrit votre livre, là, le Parti québécois n'était pas encore au pouvoir, vous disiez « une conception nouvelle de la sécurité d'emploi se développe et fait appel à une responsabilisation accrue des individus face à leur formation pour assurer leur employabilité ». Pouvez-vous nous rendre ça peut-être un peu plus vivant, mais je trouvais ça intéressant comme phrase. Donc, il y a vraiment une perception face au travail et à la formation sur le terrain qui a changé là, pour le travailleur.
Oui, oui. Je pense que c'est une question assez large, mais disons que petit à petit, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a voulu, en même temps qu'il s'activait dans les politiques pour mettre en place toutes sortes de choses, a voulu se désengager de la formation continue et donner ça aux partenaires du marché du travail. Donc, ça a été ça le sens, la mise en place de la Commission des partenaires du marché du travail et de différents autres organismes. Et ce que ça faisait, ça, c'est de faire en sorte, finalement, qu'on voulait donner et aux entreprises et aux individus la responsabilité de la formation tout au long de la vie, si on veut.
Donc, le gouvernement voulait s'en détacher, là.
S'en détacher, c'est-à-dire mettre en place des normes, des règlements, mais faire en sorte que ce soit vraiment les entreprises et les individus qui participent, aussi bien financièrement, hein, parce que vous me posiez la question tout à l'heure de la politique de 2002, là, ce qui arrivait, c'est qu'on voulait aussi que les entreprises, les individus participent au même titre que l'État financièrement à cette formation continue. Puis je pense que ça nous ramène aussi beaucoup à la lutte des étudiants, hein, cette année. Qui va payer pour l'éducation? Alors donc, ça allait dans ce sens-là. On fait payer les individus et les entreprises. Et donc, c'est là où on en est, donc, qu'il y a une espèce de tendance où on voudrait responsabiliser de plus en plus les individus, mais en même temps, on leur donne pas les moyens de se responsabiliser. C'est-à-dire qu'au Québec, il n'y a pas de politique de congé d'éducation payée, par exemple, alors qu'il y en a dans plusieurs autres pays. Il n'y a pas effectivement de sécurisation, là, c'était ça le sens de votre question, sécurisation des travailleurs, s'ils se font former, qu'est-ce qui arrive pendant le temps qu'ils s'en vont en formation, etc. C'est des questions à se poser. Il y a des pays qui ont pris les devants sur ça, puis on parle de nouvelles politiques de sécurisation professionnelle, où justement on prévoit que pendant des congés, les travailleurs, les travailleuses pourront retrouver leur travail suite à ce congé-là, alors qu'ici, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Donc, c'est des questions, je pense, qu'il faut se poser si on veut faire en sorte que les individus s'intéressent vraiment à se former, c'est-à-dire s'intéressent, aient les moyens de se former.
Parce qu'en ce moment, il y a trop de conséquences économiques sur notre portefeuille pour se former si l'entreprise ne fournit pas directement n'offre pas les avantages à vouloir se former, j'imagine.
C'est ça. Puis l'entreprise, il faut pas se le cacher, elles vont donner des formations, les entreprises qui sont le plus proches possible de leurs besoins immédiats. C'est-à-dire que les entreprises sont pas là normalement pour former de façon large les individus, les travailleurs, les salariés. Donc, ce qui arrive, c'est que si un salarié vise autre chose que de se former sur son emploi de façon très stricte, très précise, il n'est pas appuyé d'aucune façon par l'État sur ça, ni par son employeur en général.
Et le fait que les gens bougent de plus en plus aussi d'emploi, autrefois on avait un emploi, on y restait 30 ans, 35 ans, 40 ans, le fait d'avoir des emplois pour 5 ans, 8 ans, on passe d'une compagnie à l'autre, est-ce que ça encourage moins les entreprises à former leurs employés, sachant qu'on peut s'en aller du jour au lendemain?
Ben, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, oui, ça pourrait encourager moins les entreprises à former leurs employés, mais en même temps, former les employés pour une entreprise, ça peut être une façon de retenir un certain nombre d'employés ou d'attirer à elle un certain nombre d'employés, c'est-à-dire qu'il y a un peu une nouvelle relation d'emploi qui se crée où l'entreprise montre que si un bon employé vient chez elle, il va avoir en contrepartie une formation qui pourra lui servir après dans d'autres emplois. Donc, c'est un peu paradoxal, là, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe.
Et si vous aviez un cri du cœur en terminant à lancer à notre nouveau gouvernement péquiste, ce serait quoi par rapport à la formation continue?
Ben, ce serait peut-être de répondre aux politique, aux recommandations de la Commission Jean des années 80 déjà, qui mettait de l'avant des congés d'éducation payés, des droits à la formation finalement pour les employés, qui soient autre chose que d'obliger l'entreprise à former ses employés un peu comme elles veulent. Là. Donc, des droits à des congés payés, des aides, des dispositifs pour aider les employés à se former. Je pense que c'est vraiment ça qui manque au système de formation de la main-d'œuvre qui est en place puis qui est déjà quand même assez solide.
Eh bien, Colette Bernier, sociologue et professeure associée au département des relations industrielles de l'Université Laval, merci.
Pour animer l'information à Montréal, CIBL 101.5.